BFM Business présente toute l'actu éco et business à la mi-journée. Sandra Gandoin, Lorraine Goumeau. 90 minutes business.
Toute la team est là, bienvenue dans 90 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. On va décrypter les dernières informations avec nos reporters, nos invités, Jean-Marc que vous voyez ici. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Vous êtes en forme cette journée de mobilisation, présent comme promis. Hein.
Ah oui, présent comme promis, j'ai même pas eu besoin de marcher.
Et voilà,
j'avais un autobus.
Ça fonctionnait.
Ça fonctionnait.
On va en parler tout à l'heure en longueur, évidemment, dans cette émission. Au sommaire de ce jeudi 19 janvier, eh bien, cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les salariés dans la rue, leurs employeurs qui s'inquiètent avec une question, quelle sera l'ampleur du mouvement? On va en parler avec Raphaël Couder dans un instant. Ce sera aussi l'objet de notre débat à 12h40. Dans notre focus, le groupe Gosport placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Grenoble qui a constaté la cessation de paiement de l'enseigne. Par ailleurs, la maison mère est visée par une enquête pour abus de biens sociaux. On va voir ça dans les détails dans le focus dans 5 minutes avec Hélène Cornet. Et puis c'est le jour de parler de mobilité. Il est cofondateur d'une entreprise de distribution de véhicules électriques. Il est aussi co-président de l'antenne Île-de-France d'entrepreneurs pour la planète. Grégory Coyot, le patron de Volt, sera notre invité dans une dizaine de minutes. Puis n'oubliez pas la deuxième partie de l'émission, 90 minutes business avec vous. On répond aux questions que vous nous avez posées sur cette adresse, avec vous at bfmbusiness.fr. On sera en direct sur les réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, Twitter et Facebook, et ce sera à partir de 13h. En attendant, c'est le journal.
90 minutes business, le journal.
Et à la une, évidemment, aujourd'hui, cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les salariés dans la rue, un peu partout dans le pays, leurs employeurs qui s'inquiètent. Raphaël Couder, vous êtes dans le quartier de la Défense, hein, le plus important centre d'affaires d'Europe pour BFM Business. Est-ce qu'il est impacté par la grève aujourd'hui? Nous retrouverons Raphaël Couder un tout petit peu plus tard. Bon, d'après les dernières informations qu'on avait sur les derniers reportages de Raphaël Couder, Jean-Marc, il y avait un peu de monde. Et nos transports, là, nous, on l'a vu ce matin, ça avait l'air de fonctionner. Est-ce que la mobilisation, finalement, est-ce que c'est un petit peu à l'image de la mobilisation de ce qu'on voit aujourd'hui? Il faut attendre un petit peu ce qui va se passer aussi dans la rue cet après-midi.
Oui, on va attendre le nombre de personnes qui vont défiler cet après-midi. Ce qui est certain, c'est que on est plutôt dans une sorte de désescalade de la part des syndicats. Il y a deux choses qui sont frappantes. D'abord, Philippe Martinez a désavoué clairement les propos d'une partie de la CGT de l'énergie qui avait appelé à couper l'électricité et le courant dans les permanences et dans les domiciles des députés de Renaissance. Oui. Donc il a dit c'est pas comme ça qu'on se comporte. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement la RATP a fait un communiqué vers 10h-11h en disant que il y avait plus de services,
et oui,
plus d'autobus qui circulaient, et surtout certaines lignes qui avaient été annoncées comme devant être totalement fermé, avait certes une circulation perturbée, mais était là. Donc, il y a peut-être une forme de moindre excitation et moindre colère de la part des salariés concernant cette réforme.
On va prendre le mouvement, le pouls de ce mouvement tout au long de la journée, évidemment, sur BFM Business. En attendant, ce qui est sûr, c'est le ras-le-bol des commerçants parisiens, crise après crise. Ils demandent au préfet et à la mairie de Paris de garantir la sécurité économique et la continuité du service public dans cette période de tension sociale. C'est un sujet d'Hélène Cornet.
La liberté de faire grève, mais aussi la liberté de travailler et d'aller et venir. Pour la CPME, le compte n'y est plus pour les petites et moyennes entreprises parisiennes. Chaque manifestation charrie son lot de nuisances, explique son président, et l'impact est catastrophique. En décembre 2019, l'activité avait chuté de 18 à 50% pour les restaurateurs et commerçants. Depuis, il y a eu la crise sanitaire et aujourd'hui l'inflation qui grignote du pouvoir d'achat. C'est sans fin, explique une fédération qui regroupe les enseignes de centre-ville. La CPME appelle à l'organisation d'états généraux de la sécurité économique à Paris avec toutes les parties prenantes afin que l'activité cesse d'être la victime collatérale des mouvements sociaux. On pourrait imaginer protéger les zones commerciales des parcours des manifestations par exemple, ou aider financièrement les commerces dégradés. L'organisation demande également aux parlementaires de faire évoluer la loi pour une véritable obligation de service minimum dans les transports. C'est aussi l'image de Paris au niveau international qui est en jeu.
Allez, ça y est, on va pouvoir prendre le pouls de ce qui se passe à la Défense. Raphaël Couder, on vous a retrouvé. Est-ce que ce quartier des affaires est impacté par ce mouvement aujourd'hui?
Il y avait seulement un tiers du flux de piétons habituel ce matin sur le parvis de la Défense. Donc certes, beaucoup moins de monde que d'habitude, mais le quartier n'est pour autant pas totalement à l'arrêt. Il y a tout de même un RER sur deux qui fonctionne. Et puis on voit sur l'esplanade depuis ce matin des gens qui se déplacent à vélo ou encore en trottinette électrique. Bref, les salariés se sont adaptés. Le quartier a également mis en place des mesures pour faciliter la venue des salariés en voiture. Les parkings proposent aujourd'hui un tarif spécial grève. Ce sera 10 euros la journée pour cette grève. Et puis, dans tous les cas, il faut dire que ce quartier, il a beaucoup évolué depuis la crise sanitaire. Beaucoup d'entreprises ont désormais recours au télétravail et elles ont désormais la capacité de s'adapter facilement et rapidement grâce à tous ces outils numériques lorsqu'il y a une grève comme celle-ci.
Merci Raphaël Couder. Oui, c'est ça, les gens se sont adaptés, Jean-Marc. Il y a le télétravail qui est arrivé entre-temps.
Oui, la question que l'on doit se poser, c'est est-ce que les gens qui sont absents sont en grève ou est-ce qu'ils sont en télétravail? Et donc, ça va être, il y aura tout un travail de documentation à faire pour arriver à un résultat à peu près convenable. Donc, le travail s'adapte, il va falloir que les mouvements sociaux s'adaptent aussi.
On va évidemment continuer à en reparler tout au long de cette heure et notamment dans le débat à 12h40. Dans notre focus, ce qu'on a appris ce matin, cette décision, le groupe Gosport placé en redressement judiciaire, décision du tribunal de commerce de Grenoble qui s'ouvre désormais une période d'observation de 6 mois pour la chaîne d'articles de sport. Le temps peut-être, Hélène Cornet, de trouver un repreneur et d'y voir un peu plus clair sur l'état des finances de la maison mère.
Voilà, parce que Gosport a été... le tribunal a constaté en effet une cessation de paiement. Alors, petite subtilité, ce n'est pas la société Gosport France, donc le réseau de magasins qui est en cessation de paiement, mais sa maison mère qui s'appelle pareil, le groupe Gosport, qui appartient au groupe HPB, lui-même filiale de la financière immobilière bordelaise. Donc voilà, c'est un montage un petit peu compliqué qui a justifié d'ailleurs plusieurs audits, une enquête du parquet, un rapport des commissaires aux comptes et notamment sur cette remontée un peu suspecte récente de 36 millions d'euros de trésorerie de Gosport vers le groupe HPB. Donc les salariés, eux, sont vraiment révoltés. Ils sont d'autant plus en colère s'ils se trouvent dans cette situation, c'est en raison, disent-ils, d'un management malveillant et potentiellement malhonnête. Depuis plusieurs mois, ils avaient émis un droit d'alerte pour ne pas devenir le nouveau Cabailleux, car Gosport, disent-ils, est viable, le numéro 3 du secteur de la distribution du sport, 2160 salariés autour de 200 magasins, une société qui, disent-ils, a les moyens de se relancer.
Au cœur de ce système, Hélène Cornet, il y a l'homme d'affaires Michel Ohayon.
Oui, alors on connaît Michel Ohayon qui est surtout présent dans le vin, dans l'immobilier, dans le luxe et qui s'est donné pour défi il y a quelques années de créer un petit empire dans la distribution. Depuis 2018, il enchaîne les acquisitions, les 25 galeries Lafayette en région. On a aussi la Grande Récré, Camailleux, Gosport et Gap France. Le tout à moindre frais puisque la plupart se sont faites au prix symbolique de 1 euro. Alors le défi est-il trop grand pour notre homme? C'est la question en tout cas. C'en est fini effectivement de Camailleux depuis octobre dernier. Gosport aujourd'hui placé en redressement. On se demande si finalement il ne cherche pas à se désengager. C'est la question. Surtout depuis qu'il a nommé Patrick Puy à la tête de Gosport il y a 15 jours, présenté comme un spécialiste des restructurations et qui est surtout connu pour avoir liquidé Vivarte en vendant pratiquement tous les actifs.
Jean-Marc, une réaction sur ce dossier?
Oui, une réaction, c'est parce que assez souvent dans ce genre de situation, on dit voilà, les patrons sont rapaces, le capitalisme est immoral et tout. Moi, ce qui me frappe, c'est que si jamais il y a quelqu'un de malhonnête dans l'affaire, la justice est saisie. Et si jamais l'entreprise est rentable, eh bien, il y aura un repreneur. La dynamique du capitalisme, c'est de punir les malhonnêtes et de confier aux compétents les rênes des entreprises. Et ça marche plutôt pas mal.
Vous avez confiance en le système?
Dans le système, je serai à la place des salariés. Je serai certes inquiet, mais fondamentalement rassuré.
Bon, ça rend le sourire à Hélène Cornet. Merci beaucoup. Jean-Marc, on fait un point Euronext tout de suite. Antoine, la tendance s'est retournée sur le marché de CAC 40 et même sous les 7000 points.
Oui, on vient de les reconquérir à l'instant. On est encore en dessous, 6999, mais vous le voyez, on a un vrai coup de faiblesse. Depuis ce matin, ça a commencé par une petite consolidation et puis ça s'est amplifié là depuis une heure et demie. Le CAC 40 donc en repli d'1,19%. On a un Eurostock 50 en baisse d'1,22%. Le DAX à Francfort, moins 1,16%. On est dans le sillage direct de Wall Street qui a un petit peu perdu pied hier. Là aussi, on a eu un gros trou d'air et notamment autour des valeurs cycliques et industrielles. Le Dow Jones a perdu 1,8%. Il y a aussi un gros coup de pression des banquiers centraux, que ce soit ceux de la Fed, que ce soit ceux de la BCE ce matin. On y reviendra d'ailleurs après midi et demi. Mais il y a une vraie petite problématique et un vrai petit défi qui est en train d'être lancé en ce moment entre les investisseurs et les banquiers centraux. L'euro-dollar, lui, reste vraiment rivé sur 1,0826. Du côté des taux obligataires, c'est la détente qui prévaut encore. Et sur les valeurs, à noter que ce sont notamment les valeurs liées aux matières premières très cycliques, très industrielles. ArcelorMittal qui perd 3,2% à 27,96 € par exemple, qui sont touchés. Mais on a aussi Eramet, aussi hors indice, qui perd 3,3% à 89,15 €. À noter qu'on s'est replié vraiment sur des valeurs très défensives ce matin sur le CAC 40. Thales plus 0,7% à 116,95 €. Pernod Ricard plus 0,6% à 192,25 €. Ou encore Danone plus 0,48 € à 50,22 €. C'est Virbac qui signe la plus forte hausse du SBF 120 à plus 4,7%, 264,50 €. Le CAC donc sur une correction assez marquée, moins 1,14%. Là pour l'instant on conserve les 7000 points, mais on sent que le test est en cours. 7002 points, l'euro 1$, 0,825.
Restez dans les parages, Antoine Larry-Gaudry. On vous retrouve juste après le rappel des titres. Ce sera à 12h30 en effet. Elle est dans... C'est l'heure de l'édito de Jean-Marc, tout simplement.
90 minutes business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
Pierre Moscovici se dit préoccupé par la dégradation des finances publiques en France, Jean-Marc.
Et oui, Pierre Moscovici présentait hier ses vœux à la presse. Vous savez, on est dans ce mois de janvier où tous les jours, il y a une institution qui présente ses vœux. On arrive quand même à la fin, là. On va pouvoir bientôt respirer et donc se consacrer au travail. Et alors, il a fait un discours en disant qu'il était préoccupé, et donc dans des propos qui se voulaient fermes, mais réfléchis et mesurés, pour reprendre un vers de Molière, puisque nous quittons l'année Molière, j'aurais pu dire et j'aurais pu penser, comme beaucoup, qu'en termes galants, ces choses-là sont mises. Mais alors, je me suis dit, est-ce que ça va avoir une conséquence, un impact
C'est quand même le premier président de la Cour des Comptes.
C'est le premier président de la Cour des Comptes. Donc, normalement, ça devrait susciter un certain écho chez les parlementaires et au gouvernement. Alors, j'ai regardé les vœux des présidents de la Cour des Comptes depuis une dizaine d'années. Je vais vous faire une citation. Le redressement rapide des comptes publics est une nécessité impérieuse. Les mesures de redressement de nos comptes doivent porter à la fois sur les recettes et les dépenses, davantage sur les dépenses d'ailleurs que sur les recettes. C'est pas Pierre Moscovici hier, c'était Didier Migaud en 2012.
Ah oui.
Et il prononçait ses vœux en insistant sur le fait que c'était une année électorale et que quel que soit le président élu en 2012, il aurait à prendre ce dossier d'emblée, de façon immédiate, pour redresser les comptes publics. Depuis, la dette publique a continué à exploser.
Oui, bizarrement, ils sont d'accord avec vous, mais enfin, il n'y a pas beaucoup d'effets.
Il ne se passe jamais rien. Alors, pour conclure, je reprendrai un autre vers de la même pièce de Molière, du Misanthrope. À un moment donné, Alceste dit « Ce me sont de mortelles blessures de voir qu'avec le vice, on garde des mesures. Je trouve qu'il faut arrêter les demi-mots, les conseils, et il faut peut-être demander à nos parlementaires, qui sont les représentants des contribuables, d'assumer une fois pour toutes leur rôle en remettant de l'ordre dans les finances qu'on leur confie. »
Voilà, c'est dit. Jean-Marc Daniel est colère ce matin. Allez, dans un instant, notre invité, journée de mobilisation. On va parler de mobilité, tiens, justement, c'est le bonjour. Volt, spécialiste de la mobilité sur les trajets entre 0 et 30 km, est avec nous. Son cofondateur, Grégory Coyot, sur ce plateau. À tout de suite.
90 minutes business, l'invité.
90 minutes business, notre invité aujourd'hui, Grégory Coyot, cofondateur de Volt. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi coprésident de l'antenne Île-de-France d'Entrepreneurs pour la Planète. On va y revenir un petit peu plus tard. La mobilité sur les trajets entre 0 et 30 km, c'est votre spécialité chez Volt. Les scooters, les trottinettes, les vélos électriques. Vous êtes devenu le leader de la distribution de ces nouveaux véhicules électriques individuels. Question d'actualité pour commencer. Une journée comme celle-là, est-ce que ça booste les ventes?
Alors, ça peut booster les ventes, mais si elle dure un petit peu plus longtemps. Parce que si ça dure qu'une journée, c'est très éphémère, donc ça n'a pas d'impact véritablement. Par contre, on a connu un boost de nos ventes pendant la période des Gilets jaunes ou des grèves qui ont duré un petit peu plus longtemps.
C'est ça quand même. Et
favoriser justement l'équipement de ce genre de produits de mobilité.
Et depuis votre création en 2016, il y en a eu quand même un certain nombre de mouvements sociaux dans les grandes villes.
Tout à fait. Et puis il y a aussi le Covid qui nous a quand même donné qui nous a un peu dopé aussi à la sortie du Covid, l'utilisation de ces nouveaux moyens de transport.
Donc une douzaine de marques, on l'a dit, de scooters, de trottinettes, de vélos électriques, une centaine de références. Quel est le profil des clients que vous visez aujourd'hui ?
Il est très large, parce que chacun a son besoin. Donc c'est pour ça que nous, on couvre un rayon de 0 à 30 km dans la segmentation produit. Pourquoi 0 à 30 km ? Parce que c'est la distance moyenne qui sépare des banlieues un peu lointaines du centre-ville dans les 45 plus grandes agglomérations françaises.
Comment vous sélectionnez les produits ? Vous avez des produits qui viennent d'un peu partout. Il y en a qui viennent d'Europe, il y en a qui viennent de Corée. Comment vous effectuez cette sélection pour ensuite les distribuer dans votre réseau ?
Alors déjà, il y a un travail au préalable de qualification du fournisseur et du produit. Mmh. Voilà. Et aussi du besoin que peut avoir le consommateur. Donc on a une équipe sourcing qui traverse, on va dire, qui voyage beaucoup, on va dire, et qui va qualifier les produits de demain en fonction du besoin que vont avoir les consommateurs. Et ce marché se segmente de plus en plus, parce que c'est un marché naissant. Il a vraiment éclaté il y a que 3-4 ans.
Oui.
Et donc, il se fragmente et se segmente de plus en plus avec des besoins particuliers. Et donc, tous les jours, il faut trouver le bon produit, le bon fournisseur, bien le qualifier, importer ces véhicules, qu'ils soient d'Asie ou d'Europe,
oui,
les faire venir sur le territoire.
Et justement, est-ce que vous avez une appétence particulière pour les produits qui viennent d'Europe, ou est-ce qu'on ne peut pas faire la fine bouche pour le moment, vu ce qui se présente sur le marché ? Est-ce qu'on ne peut pas encore ne choisir que des produits européens ?
On aimerait. Sauf que l'écosystème de la micromobilité, il a été quand même créé et inventé par les Asiatiques.
Oui.
Voilà.
Donc il y a plus de produits qui sont proposés.
Majoritairement, des produits, tout l'écosystème est quand même basé en Chine ou en Asie, en règle générale.
Oui.
Et donc, tant qu'il n'y a pas cet écosystème en Europe, il est difficile quand même d'assembler, de construire ce type de véhicule.
Jean-Marc.
Oui, comment les clients récupèrent les véhicules en question ? Vous avez des points de vente ? Vous avez...
Alors, Volt, en fait, c'est importateur, distributeur, et on vend à des professionnels.
Donc, oui.
Nos clients sont les grandes enseignes, comme Fnac, Darty ou Boulanger, ou des magasins indépendants. Et on a à peu près 400 points de vente indépendants en France.
Et donc, votre zone de chalandise sur les 400, c'est surtout les grandes villes, Paris, Lyon, ou vous êtes aussi implanté?
En fait, c'est partout, parce que partout. Je pense qu'on a, nous, on a une vision tronquée, un peu trop parisianiste. Et donc, 80% de mon business se fait en dehors d'Île-de-France. Donc, alors 15% à l'étranger, bien évidemment. Mmh. Mais ça concerne vraiment toutes les villes de France, l'utilisation, que ce soit un vélo électrique ou une trottinette électrique. Et de plus en plus, le scooter électrique, c'est vraiment partout.
25 000 véhicules vendus en 2021, ça a donné quoi sur 2022, les ventes ?
Alors nous, on a fait 14 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021. On fait 25 millions d'euros cette année, c'est à peu près 40 000 véhicules.
Est-ce que vous vous occupez uniquement des véhicules particuliers ou vous faites aussi les flottes de villes ? C'est pas votre...
Non, c'est pas mon périmètre. Donc moi, c'est vraiment de l'équipement d'un utilisateur, donc ou équiper les foyers.
Donc la décision d'Anne Hidalgo de mettre entre les mains des Parisiens le sort des trottinettes dans sa ville, est-ce que finalement vous pensez que ça va avoir un impact général sur votre business ou pas vraiment ?
Alors moi, je vais vous étonner, j'aurais pu être complètement pour, parce que d'un point de vue effet économique pour mon entreprise, c'est très favorable. Mais je trouve ça un peu trop simpliste d'interdire, au vu des enjeux et des défis qu'a la ville de Paris dans le management de ses transports et de la transition écologique. Donc je trouve que c'est quand même une hérésie d'interdire un usage qui profite à beaucoup de Parisiens ou d'usagers au quotidien. Et sous plusieurs angles. Donc il y a un point de vue économique, parce que c'est quand même des transports qui sont peu coûteux. Économique aussi pour le Parisien, parce qu'en fait, ce sont des opérateurs privés.
Oui.
Donc le contribuable ne paye pas, en tout cas l'utilisation de ces, enfin en tout cas la mise en place et les opérations de ce type de véhicules, alors que il peut très bien payer sur un opérateur de free floating, par exemple en vélo, bien connu, je vais pas citer le nom. C'est le contribuable qui paye derrière.
Je voulais vous poser une question également. Vous êtes co-président. Non, Jean-Marc, vous aviez une question ?
Oui, juste une question. On a vu quand même le prix de l'électricité considérablement augmenter ces derniers temps. Est-ce que ça a eu des conséquences sur votre marché, ou est-ce que finalement les gens sont en train de s'engager de façon résolue vers des véhicules électriques ?
Non, je pense qu'en fait, l'électrique va devenir, on est en train de s'installer comme un standard. Donc la question se pose même plus. Les grands assembleurs, les grands constructeurs, de toute façon, investissent sur les 20 prochaines années pour justement passer du thermique à l'électrique. Donc ça ne ralentit pas. Aujourd'hui, même si le coût électrique, l'électricité fait x2 ou x3, ça ne ralentit pas l'équipement.
Vous êtes aussi co-président de l'antenne Île-de-France d'Entrepreneurs pour la planète. Ça consiste en quoi ?
Alors, Entrepreneurs pour la planète, c'est une association d'intérêt général qui regroupe et qui fédère des entrepreneurs engagés dans l'environnement et en tout cas la transition écologique des entreprises. Donc, la mission d'Entrepreneurs pour la planète, c'est de qualifier des porteurs de projets environnementaux, d'identifier des sponsors,
des partenaires,
tout à fait, et de faire en sorte qu'on crée un binôme. Est-ce que l'expérience d'un entrepreneur ou d'un chef d'entreprise puisse apporter, en tout cas son vécu puisse apporter à ces projets impact.
Et qu'est-ce que ça va être comme type de projet, par exemple ?
Il y a multiples projets, ça peut être sur le climat, la biodiversité, le social, voilà. C'est vraiment, tous les porteurs de projets sont très larges.
C'est ce genre d'appui, de solidarité entre les entreprises, que c'est avec ça que la transition va aller plus vite.
Bah en tout cas, on a un rôle à jouer, nous, en tant qu'entrepreneurs, et donc on fait en sorte de fédérer le maximum de chefs d'entreprise, justement, pour rallier cette cause et qu'on ait une ampleur de plus en plus nationale.
Grégory Coyot, cofondateur de Volt et co-président de l'antenne Île-de-France d'Entrepreneurs pour la planète. Merci d'être venu nous voir dans 90 Minutes Business. Vous revenez quand vous voulez. Tout de suite, le top 3 du web.
90 Minutes Business, le top 3 du web.
Le top 3 du web, le moment préféré de Jean-Marc, Daniel et de Pierre. D'ailleurs, il ne le dit pas, mais c'est le cas aussi. Hein. On commence, Pierre, par cet article.
Vous avez remarqué, il arrive de plus en plus tôt.
Oui,
il
c'est
est
vrai,
de plus
vous
en
avez
plus
vu. Hein, c'est ça, exactement, de rejoindre 90 Minutes Business. On commence par cet article de Paul Louis qui permet de se faire une idée plus précise des conséquences de la réforme des retraites selon des critères plus précis, la date de naissance ou le début de sa carrière.
Voilà. Pierre. On a fait date de naissance, début de carrière. Là, on va un peu plus loin et ça permet quand même de prendre la mesure de façon plus précise. En fait, chaque cas est individuel par nature. Là, j'ai sélectionné deux, parmi ces 11 profils, deux profils qui ne sont pas perdants. Bon, où le sucré est plus important que le salé. Mm-hmm. On commence par Noémie, qui est née en 1970, qui a commencé à travailler à 21 ans et cotisé au SMIC toute sa carrière. Dans le système actuel, Noémie peut partir à 62 ans et doit travailler jusqu'à ses 63 ans et 9 mois pour percevoir une retraite à taux plein. Avec la réforme, Noémie devra patienter jusqu'à 64 ans pour prendre sa retraite. Elle devra aussi cotiser 3 mois de plus pour bénéficier d'une pension complète. Mais Noémie verra sa pension augmenter puisqu'elle bénéficiera de la revalorisation prévue pour ceux qui ont travaillé au SMIC toute leur vie, avec donc un niveau minimum de 85% du SMIC, ce qui fait un petit peu moins de 1 200 € brut par mois. Le deuxième cas, c'est Noah, né en 1980, qui a commencé à travailler en apprentissage à 15 ans et 9 mois. Et dans le système actuel, il peut espérer partir à la retraite à 60 ans. Et avec la réforme, il pourra partir légèrement plus tôt, 59 ans et 9 mois, 3 mois de moins.
Il n'y a pas que des perdants, hein ?
Non, il n'y a pas que des perdants. Ce qu'il y a de frappant, c'est le nombre de programmes, de simulations et tout ça, qui prouvent que ce système est d'une complexité. Oui. Vous savez que la Cour des comptes estime qu'il y a un quart des retraités qui ne perçoivent pas ce qu'ils sont en droit de percevoir.
Oui. Certains par méconnaissance.
Ont trop, d'autres ont pas assez, par simple méconnaissance du système. Donc, si on profitait de la réforme pour remettre un peu de simplification dans tout ça, ça serait pas mal.
C'est pour ça qu'on faisait les points.
Enfin bon. Mais oui, exactement. Je suis assez d'accord. Le but des points, le président à l'époque l'avait dit, c'est plus juste et plus clair. Et
Bon, les simulateurs, ça va quand même faciliter la tâche de
beaucoup. Ah oui, absolument. La seule chose, c'est que si je rentre ma date de naissance, je vais avoir une réponse assez désagréable.
Mais vous avez trouvé la solution, Jean-Marc. On en a déjà parlé sur cette antenne. On continue avec cette proposition de loi qui révolte la grande distribution et que les députés ont finalement adoptée hier, Pierre.
Oui, c'est cette fameuse, désormais, proposition d'écrozaille du nom du député Renaissance qui a réussi à convaincre donc une majorité de députés de voter sa proposition. Alors, vous vous souvenez que Bruno Le Maire avait expliqué que la proposition devait être retravaillée. Bon, les députés ont un petit peu retravaillé quand même, puisqu'il s'agit désormais d'une expérimentation qui doit durer 2 ans, que par ailleurs, en cas d'échec des négociations, au bout de 3 mois, est prévue l'intervention d'un médiateur avec la participation du ministère, et que si les deux parties n'arrivaient toujours pas à se mettre d'accord, les relations commerciales seraient rompues sans obligation de livraison. Vous en pensez quoi, Jean-Marc ?
Oh, ils n'ont pas assez retravaillé. À mon avis, il faudrait qu'ils la retirent purement et simplement pour réfléchir vraiment et qu'ils se disent que finalement, les négociations... La concurrence, c'est pas mal. La concurrence, ça a de bons résultats.
C'est la réponse de Jean-Marc. Et puis on vient à la grève, évidemment, avec le 3e article le plus lu, Olivier Chiche-Portiche, qui explique comment exercer son droit de grève.
Alors oui, je vais proposer un petit quiz. C'est normal, je vous pose un petit quiz, Jean-Marc.
Voilà.
Alors, est-il obligatoire...
Apparemment, nous ne sommes pas grévistes.
Non. Est-il obligatoire de déposer un préavis ou de prévenir à l'avance son employeur qu'on va faire grève?
Oui.
Non. Sauf dans certains secteurs, c'est l'employeur qui va demander au salarié les jours suivant la grève pourquoi il était absent et c'est là que le salarié indiquera qu'il était en grève. Mais il est quand même de bon ton de prévenir par mail sa direction ou son manager la veille ou le matin de la grève avant sa prise de service. Mais c'est pas une obligation. Quand on se met en grève, est-ce que c'est obligatoirement pour la journée ?
Oui.
Non. On n'est pas obligé de sacrifier une journée de salaire.
Ça peut être indivisible.
Ça peut être une demi-journée, voire même quelques heures, le temps d'aller manifester. Et vous savez que on peut même rester chez soi sans manifester.
On peut rester chez soi.
Dans la fonction publique, on est obligé d'avoir. C'est toute la journée.
Ah non, c'est pas ça. Les profs. Un prof, on vous enlève votre journée de salaire, même si vous faites une ordre.
C'est pour ça que vous avez retenu ça. On vous enlève votre salaire de la journée.
Mais pas dans l'entreprise privée.
Pas dans le secteur privé. Oui.
Si on choisit de faire grève sur son lieu de travail, peut-on empêcher ses collègues non grévistes de travailler?
Ah ça non.
Ah, non. Ouais. De même qu'on n'a pas le droit de participer à la mobilisation en ralentissant sciemment les cadences de production ou le rythme de travail, ce qu'on appelle la grève perlée.
Voilà, le mode d'emploi, finalement, sur notre site. C'était le top 3 du web.
C'est un peu tard, maintenant, la grève est derrière nous. C'est pour la prochaine.
La grève est derrière nous, Jean-Marc.
C'est pour la prochaine.
On ne peut pas dire ça, mais oui, il y en a toujours une avant. C'est plus tard, c'est pas grave. Ça va servir. Restez avec nous. On va revenir sur cette mobilisation tout au long de la prochaine demi-heure avec Pierre, avec Jean-Marc. Mais avant ça, c'est le rappel des titres de Stéphanie Collo.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
Et à la une, c'est la mobilisation contre la réforme des retraites. Une journée noire dans les transports, les écoles, mais aussi le secteur de l'énergie. Chez EDF, la CGT annonce que la baisse de production d'électricité s'intensifie, l'équivalent de 2 fois la consommation de Paris. Et puis chez Total Energy, il y a entre 70 et 100% de grévistes dans les raffineries. Les livraisons de pétrole sont bloquées, les expéditions sont interrompues sur l'ensemble des sites. Et ce n'est que le début pour Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, était l'invité de BFM TV et d'RMC ce matin.
Mais je vois mal le gouvernement dire, bah écoutez, effectivement, le critère de l'âge est vraiment pas le critère le plus juste. Il touche davantage certaines catégories de salariés. Il faut revoir ça et revenez discuter. Si c'est le cas, on ira discuter. Mais si c'est pas le cas, eh bien, on continuera de peser par en appelant à des journées de mobilisation. Donc ça, on verra ça. On décide de ça ce soir à 18h entre organisations syndicales.
Et on suivra évidemment de près la situation de cette mobilisation tout au long de la journée sur BFM Business. Notez émission spéciale ce soir à partir de 18h autour de Guillaume Paul et d'Audrey Tcherkov. Le projet de loi d'escrozaille sur les négociations commerciales entre distributeurs et industriels, il prévoit une expérimentation pendant 2 ans. En cas de désaccord sur les tarifs, c'est l'industriel qui aura le dernier mot. Le texte a été adopté à l'Assemblée nationale en première lecture. Il doit maintenant être examiné au Sénat. Ce sera à partir du 15 février. Dans l'actualité, entreprise Gosport est placée en redressement judiciaire. Décision du tribunal de commerce de Grenoble ce matin, après avoir constaté la cessation de paiement de l'enseigne. Par ailleurs, la maison mère est visée par une enquête pour abus de biens sociaux. Arkema signe avec Engie un gros contrat d'achat de biométhane, ce gaz issu de la fermentation de déchets agricoles et agroalimentaires. On ne connaît pas le montant de ce contrat, mais il est présenté comme l'un des plus importants en Europe à ce jour. Et puis l'actualité à la mi-journée, c'est aussi le forum économique de Davos qui se poursuit ce matin. C'est Christine Lagarde qui a pris la parole. Avec une dose d'optimisme, la conjoncture économique s'annonce bien meilleure qu'attendue en 2023, a déclaré la présidente de la BCE. La Banque Centrale Européenne gardera néanmoins le cap sur les hausses de taux, a-t-elle précisé, car l'inflation reste beaucoup trop élevée et le marché de l'emploi n'a jamais été aussi vigoureux. Notez ce soir, Edwige Chevrillon reçoit Jean-Pierre Clamadieu, le président du conseil d'administration d'Engie, depuis Davos à 19h30. Et puis demain, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, sera l'invité de la matinale de BFM Business. Ce sera à 8h15. On jette un coup d'œil au marché à la mi-journée. Le CAC lâche les 7000 points. On perd 1,4% à 6981 points, Sandra.
Merci Stéphanie Collot.
Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Plus d'informations sur hsbc.fr.
90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.
90 minutes business, et alors qu'on vient de jeter un œil sur le CAC, on va vous rejoindre en direct d'Euronext, Antoine Larigauderie, avec vous. On va reparler de ce curieux retournement de tendance sur les marchés. On a l'impression un petit peu d'une forme de poker menteur entre les traders et les banquiers centraux, Antoine.
C'est peut-être un petit peu l'enjeu du moment, effectivement. En tout cas, c'est ce qui a provoqué le retournement de Wall Street hier soir, avec une baisse marquée notamment pour les valeurs cycliques, les industries, les valeurs liées aux perspectives économiques, hein, avec un Dow Jones qui a perdu 1,8%, le Nasdaq a un peu mieux résisté. Mais ça fait partie de ces phases où le marché a ses vapeurs. Voilà. D'un seul coup, les traders se sont dit du côté de Wall Street, mais oui, la Fed, elle plaisante pas. Apparemment, les gouverneurs sont déterminés pour continuer à remonter les taux De fait, ils ont été nombreux à s'exprimer là ces dernières heures en disant bah oui, les hausses de taux, elles vont continuer. Alors elles seront un petit peu moins sévères. On va peut-être tabler plutôt sur 25 points de base maintenant à chaque relèvement de taux. Mais oui, le travail, il est loin d'être terminé. Il ne faut pas confondre fin de l'inflation et fin de la hausse des prix. Ce n'est pas du tout la même chose. Et on reste sur des niveaux très élevés. Vous l'avez dit, on reste sur un marché de l'emploi particulièrement vigoureux du côté européen et du côté américain. D'ailleurs, la plus claire à ce niveau-là, c'est la présidente de la réserve fédérale de Dallas, Lori Logan, vraiment clair comme de l'eau de roche hier sur la nécessité de continuer le travail. Et alors là, d'un seul coup, Wall Street hier soir s'est dit, on a peut-être un petit peu trop anticipé. Et du coup, c'est ce qui se passe du côté européen ce matin, avec un repli effectivement marqué du CAC 40 et ce fil du rasoir sur les 7000 points. Et alors, après l'intervention de Christine Lagarde, on a notamment le patron de la Banque Centrale des Pays-Bas qui a été particulièrement clair ce matin à ce niveau-là, qui a dit oui, les hausses de taux vont continuer. Alors là, pour la BCE, c'est plutôt du côté des 50 points de base que ça va se jouer, et elles seront multiples, ces hausses de taux, dit-il, avant d'ajouter, et alors là, ça sonnait clairement comme une menace, il faudrait peut-être que les marchés nous prennent au sérieux à ce niveau-là. Donc, il y a peut-être effectivement une sorte de confrontation qui est en train de naître, là, un petit défi entre le marché obligataire notamment, qui ne tient absolument pas compte de tous ces propos, étant donné qu'on reste sur la détente de ces derniers jours, peut-être un petit peu trop anticipé, et le ton très très ferme, de plus en plus ferme, des banquiers centraux, et c'est peut-être une des problématiques qui va secouer le marché ces prochaines semaines.
Réaction de Jean-Marc Daniel immédiatement.
Oui, je pense que la réaction du gouverneur de la Banque Centrale des Pays-Bas, qui de très longue date, même avant l'euro, était très lié à la Bundesbank, est plutôt un message adressé à un certain nombre de pays qu'aux marchés eux-mêmes. C'est-à-dire, je crois que le message s'adresse aux pays d'Europe du Sud, singulièrement. On parlait de la France et l'Italie, qui sont les deux angoisses et les deux moutons noirs de la zone euro en termes de finances et de finances publiques. Et je pense que c'est à eux que s'adresse le gouverneur de la Banque Centrale plutôt qu'au marché. Alors après, il y a des yo-yo. Je pense qu'on est plutôt dans une phase de yo-yo que dans une phase de chute brutale des bourses, quelles qu'elles soient, compte tenu de l'ambiance générale. Et puis, Madame Lagarde l'a dit, la conjoncture s'améliore. Donc, normalement, il y a les taux et la conjoncture. Les deux se neutralisent plus ou moins. Donc, le vrai message, le vrai destinataire, c'est nous.
Voilà le ressenti de Jean-Marc, Antoine.
Ouais. Pas un hasard, effectivement. Mais c'est vrai que Glasnost, c'est son nom, est considéré comme un des faucons de la BCE. Il a toujours été parmi les tenants de l'orthodoxie, déjà du rôle de la Banque centrale, et puis du toc-toc-toc, les gouvernements, niveau budgétaire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années? Et effectivement, oui, ça sonne un peu comme un avertissement. Avertissement aussi au marché contre, et là je rejoins aussi souvent une thématique qui est chère à Wilfried Galland qui intervient souvent chez nous, celle de la complaisance des marchés. C'est vrai qu'on monte en ligne droite de 10% quasiment sur le CAC 40 depuis le début de l'année, avec l'impression que toutes les menaces ont été effacées de l'horizon. On est loin d'avoir fait le travail, donc pas impossible qu'on ait un petit peu de correction comme ça qui intervienne, peut-être encore un petit peu sur fond de tension hein, autour des propos des banquiers centraux. Mais effectivement, je rejoins Jean-Marc là-dessus, on peut peut-être parler de yo-yo et de, voilà, d'épisodes où la bourse a ses vapeurs.
À suivre en tout cas. Merci Antoine Larigauderie en direct d'Euronext. Et toute la semaine, on suit également ce forum économique de Davos, jour 4. Et on vous y rejoint en direct, Nathan Cocampo. Après l'intervention exclusive hier de Patrick Pouyanné, le secteur de l'énergie est bien représenté hein, au forum économique mondial. Vous êtes sur place, Nathan. Christine Lagarde vient de terminer un discours assez attendu.
Oui, la présidente de la Banque Centrale Européenne s'est exprimée autour d'une conférence ayant pour titre « Comment retrouver de la croissance en Europe ?». Alors, l'inflation est beaucoup trop élevée, a-t-elle déclaré. La BCE gardera donc le cap sur les hausses de taux. Christine Lagarde qui assure que la conjoncture économique s'annonce bien meilleure qu'attendue en 2023. Sur place ici aussi à Davos, le patron d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, a retrouvé ce soir à 19h30 dans la grande interview d'Edwige Chevrillon. Il reviendra notamment sur cette info qui circule depuis plusieurs heures. Les stocks de gaz pleins devraient être un peu vidés dans les prochaines semaines pour respecter des contraintes techniques. Il donnera aussi ses perspectives sur l'hiver 2023. Enfin, notez aussi ce soir l'arrivée de Bruno Le Maire au sommet, au Forum économique mondial. Le ministre de l'économie sera l'invité demain à 8h15 sur BFM Business. Il est de retour du sommet franco-espagnol. Voilà, il parlera énergie, mais aussi de la réforme des retraites au lendemain donc de la mobilisation d'aujourd'hui.
Du beau monde à Davos. Merci beaucoup Nathan Cocampo pour ce direct. Jean-Pierre Clamadieu ce soir donc en direct à 19h30 et Bruno Le Maire demain à 8h15 dans Good Morning Business. Ce sont nos invités. Un petit mot Jean-Marc sur l'intervention de Christine Lagarde.
Oui, elle rejoint un certain nombre de prévisions qui sont faites en ce moment et la catastrophe annoncée ne sera probablement pas au rendez-vous. François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, avait dit que la situation économique était meilleure que le moral collectif. Et donc, je crois que c'est assez vrai.
Dans un instant, notre débat. On va revenir sur cette journée de mobilisation. L'appel à la grève a-t-il été suivi? Les patrons sont-ils inquiets? On va en discuter avec Jean-Marc, bien sûr, avec Pierre Kupferman et avec Jean-Claude Ducat, président d'EPSI. Dans un instant, il nous a rejoint. C'est dans 2 minutes. Restez avec nous.
90 minutes business, le débat.
Le débat et l'actualité aujourd'hui, c'est cette mobilisation des syndicats, des travailleurs et également, en tout cas on va le voir ce soir avec les chiffres des personnes qui seront descendues dans la rue sur tout le pays. Les manifestations ont lieu ce matin dans le sud de la France. Cet après-midi dans la capitale, Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman sont autour de cette table ainsi que Jean-Claude Ducat, président du cabinet de conseil en relations sociales EPSI. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ce qu'on disait en début de semaine avec Caroline Morisseau, notre spécialiste du dossier, c'est que ce qui importe, ce n'est pas tant le nombre de manifestants dans la rue, Jean-Claude Ducat, c'est l'ampleur des blocages.
Écoutez, pour cette fois, je crois que c'est quand même un peu des deux.
Mm-hmm.
Parce que vous êtes face à une situation inédite. Pour la première fois, on a tous les syndicats français qui se retrouvent. Ceux qui n'ont pas l'habitude de marcher avec la CGT, comme la CGC, la CFDT, la CFTC, donc il y a tout ça. Il y a également le taux de grévistes dans l'éducation, qui je crois est à 42% à l'heure à laquelle on parle, donc c'est absolument considérable, 100% dans les raffineries. Donc si vous voulez, il y a à la fois un potentiel de blocage qui est extrêmement important, mais on n'a rien vu, et un nombre de gens dans la rue qui me semble être à l'instant... une donnée véritablement à prendre en compte, parce qu'il y a bien sûr des syndicalistes qui représentent peu de gens, mais il y a plein de gens qui sont des Français qu'on pourrait appeler des Français normaux, qui sont également des salariés du privé, qui sont descendus dans la rue. Le tam-tam a été à la fois un tam-tam médiatique, mais je crois qu'il y a eu un tam-tam Facebook absolument considérable, et que surtout l'autre élément et dernier élément, c'est qu'aujourd'hui plus personne ne coordonne rien, parce que c'est l'ère des coordinations spontanées,
oui, c'est vrai.
Et que quelqu'un d'un peu intelligent peut arriver à vous basculer 100 000, 150 000, voire plus de personnes dans la rue.
Oui, c'est vrai que ces mobilisations spontanées, on les a vues fleurir ces dernières semaines, notamment en décembre. Pierre, on parlait des syndicats, mais il n'y a pas que finalement. Il y a beaucoup de syndicats, mais vous vouliez revenir sur les syndicats.
Non, sur les syndicats, je voulais peut-être rappeler quelques chiffres, parce que des chiffres qu'on n'a pas forcément en tête.
Oui.
Combien il y a de personnes syndiquées en France, si je vous pose la question, Jean-Marc?
8% ou 7% des salariés.
Alors c'est syndiqués. Plus compliqué que ça. Il y a deux façons de compter. Hein. On peut avoir les déclarations des.
Si on prend les déclarations, aussi, sont membres des syndicats.
Mais on prend les déclarations des syndicats. On leur pose la question, ils vous répondent. Hein. Alors faut les croire sur parole. Et puis il y a aussi la DARES qui fait régulièrement des sondages auprès des salariés en demandant est-ce que vous êtes syndiqué ou pas. Le dernier sondage c'était 2019. Il n'y en a pas eu depuis. Ça a sans doute baissé parce que la tendance était à la baisse. Et à l'époque on était à 10,3%, ce qui nous fait un peu plus de 2,5 millions de syndiqués. Si on prend les déclarations, moi j'ai pris les déclarations des 10 principaux syndicats, j'ai additionné, on est à 2,438,000, enfin, quasiment 2,5 millions. Mais c'est les 10, il y a quelques petits syndicats qu'il faudrait rajouter en plus. On est globalement à 2,5 millions. Voilà, ça doit être le chiffre à peu près réaliste. Et alors, parmi ces syndicats, le plus puissant nombre d'adhérents déclarés, c'est la CGT, 640 000. Ensuite, vous avez la CFDT, un petit peu plus de 600 000, on va dire 600 000. Force ouvrière, ils ont revu à la baisse fortement le nombre d'adhérents déclarés, puisque voilà les dernières déclarations, c'était 350 000. Avant, on était à 500. Hein. L'UNSA, 200 000. FSU, 150 000. CFE-CGC, 148 000. CFTC, 140 000. Solidaire, 110 000. Et Sud, 100 000. Vous voyez, c'est quand même pas négligeable. Et on se dit, si tous les adhérents vont dans la rue, on est à bien plus que 1 million de manifestants. Bon, c'est toujours plus compliqué. Vous vous souvenez qu'on a dit tout à l'heure ensemble qu'il y a ceux qui peuvent se déclarer grévistes au dernier moment. Mais il y a quand même une partie des salariés qui n'ont pas le droit. On peut le dire. Hein, dans le secteur de la santé, dans le secteur des transports, il faut se déclarer 48 heures à l'avance. Et si il n'y a pas assez de personnes pour travailler, ben vous êtes réquisitionné. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Mais voilà, ça donne une idée quand même. C'est 2,5 millions de syndicalistes potentiellement mobilisables, pas syndicalistes, syndiqués, pardon, c'est pas pareil, syndiqués qui sont potentiellement mobilisables et mobilisés.
Jean-Claude Ducatte.
Vos chiffres sont officiels et ils sont pas contestables. Néanmoins, je porterai un tout petit bémol parce que vous savez comment on compte un syndiqué. Un syndiqué, c'est quelqu'un qui doit avoir au moins 4 timbres. Bon, aujourd'hui. C'est-à-dire la cotisation est divisée en trimestres. Aujourd'hui, à un trimestre, vous êtes considéré comme syndiqué. Donc ça diminue fortement.
Vous avez raison. D'ailleurs, il y avait deux spécialistes qui se sont amusés à compter quelque chose de complètement différent. Parce que les chiffres qu'on ne peut pas manipuler sont les chiffres des rentrées de cotisation. Ça, on peut pas les manipuler parce qu'il faut les publier. Et là, on peut calculer effectivement si on sait à combien s'élève le montant normal d'une cotisation, vous divisez la somme collectée chaque année et le montant normal d'une cotisation et vous avez le nombre d'adhérents réels.
Ah oui, c'est ça. Jean-Marc.
Oui, non, ce qu'il y a d'important dans cette affaire, c'est qu'effectivement les syndicats sont de moins en moins influents. Et puis, je le rappelle aussi, les retraités continuent à être des membres des syndicats et donc dans la population active. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un double enjeu. Je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que l'enjeu des blocages, c'est une forme de désespoir. C'est-à-dire, on va vers l'extrême parce qu'on n'est pas capable effectivement d'aligner beaucoup de troupes. Donc, on se fait voir parce que on se fait voir par l'excès. C'est le retournement de la formule. Tout ce qui était excessif est insignifiant. Et donc on est plutôt dans une période maintenant où tout ce qui n'est pas excessif est vécu comme étant insignifiant. Et donc, en revanche, si les syndicats ont l'impression qu'il y a beaucoup de monde derrière eux, et c'est pour ça que la déclaration de Philippe Martinez, je l'ai trouvée intéressante, parce qu'il a la conviction qu'il aura les moyens, parce qu'il y aura beaucoup de monde, de négocier un rapport de force. Il n'aura pas besoin d'être violent, il n'aura pas besoin d'aller dans l'excès. Et donc, on va voir combien il y aura de monde. Alors, il y a un des enjeux, on est au mois de janvier, on va voir, j'ai du mal à savoir ce qui va se passer cet après-midi en termes de météo, parce que les bulletins états météo sont différents.
Vous accordez beaucoup d'importance à la météo ces jours-là.
Oui, ces jours-là. Je cite souvent une formule de premier ministre anglais, qui était Gladstone, qui était un grand premier ministre, et on lui demande un bilan de sa carrière politique. Il dit, comment se fait-il qu'en Angleterre, il n'y ait jamais de révolution? Et il dit, c'est parce qu'il pleut tout le temps.
On va y revenir sur l'Angleterre. Annalisa va nous en parler dans un instant. Jean-Pierre Ducat, est-ce que ce type de mobilisation, celle qui est organisée là, contre cette réforme des retraites, elle peut avoir des effets sur cette réforme? Elle peut faire reculer le gouvernement?
Écoutez, je crois que à 1 million, ça passe. À 2 millions, on s'interroge. À 3 millions, on change de groupe de Premier ministre et on fait un référendum.
Donc pour le moment, ça prend.
Ou alors,
pas forcément cette route.
Mais il y a énormément de risques. Je voulais simplement dire, un tout petit point également dans les syndicats. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, les syndicats de retraités sont plus importants et beaucoup plus, je dirais, vindicatifs qu'ils ne l'étaient auparavant. Auparavant, on mettait les vieux. C'était ceux qui avaient fait la révolution. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont un investissement syndical extrêmement important parce qu'ils ont énormément de temps. Et donc, le poids de leur position et devient pas déterminant, mais est un élément à prendre en compte dans toutes les confédérations.
Ils sont très fortement représentés contre une réforme qui ne les concerne plus.
C'est souvent des retraités de la fonction publique, n'oublions pas non plus.
Pierre.
Non, juste un petit point qu'il faut souligner, c'est qu'on a donc cette fois la participation de la CFDT. Et la CFDT a une particularité par rapport aux autres confédérations, c'est qu'elle a un système de caisse de grève confédérale. C'est-à-dire qu'on cotise une partie des cotisations, de mémoire 15% des cotisations, vont nourrir une caisse qui, je vous le dis, atteint aujourd'hui, allez-y, avant que je le dise...
Jean-Marc.
Je ne sais même pas combien ils sont capables d'aligner.
C'est quand même...
Donnez un chiffre.
Jean-Claude Ducat.
Allez, je dirais 250 millions.
Ah non, quand même, là, vous êtes très loin. Ça n'est jamais arrivé. Jean-Marc.
Mais si ce n'est pas 250 millions, c'est 100 millions.
Non, 141 millions précisément. Ça monte progressivement parce que la CFDT n'est pas en permanence en grève. Enfin, n'appelle pas en permanence à faire la grève. Mais 141 millions, ça permet de faire face à 35 heures payées, 7,70 € de l'heure, pour tous les adhérents salariés.
Justement, pour rebondir sur la CFDT, et pour ce qui est important dans ce Front syndical uni, c'est que je crois qu'on se trompe sur le message global de la CFDT. La CFDT a toujours été favorable à la réduction du temps de travail et toujours été hostile au report de l'âge de départ à la retraite.
Oui,
vous vous souvenez que dans les années 90, on le cite assez souvent, il y avait eu un colloque, un congrès de la CFDT où Martine Aubry, qui était alors pour la première fois ministre du Travail, avait dit « Je sais qu'ici, on peut se faire acclamer en militant pour les 35 heures, je m'y refuse, je suis totalement hostile aux 35 heures. » Alors, on connaît après ce qui s'est passé, mais déjà dans les années 90, le discours structurel de la CFDT, c'était que le partage du travail est un bon moyen, à la fois d'améliorer les conditions de vie des gens et aussi de réduire le chômage. Et donc, il n'est pas absurde, contrairement à ce qu'on pense, que la CFDT se retrouve sur ce dossier, aux côtés de la CGT, parce que on touche, avec l'âge de départ à la retraite, à un champ de réflexion qui est assez traditionnellement celui de la CFDT.
On va interroger Annalisa Cappellini, comme promis, sur ce qui se passe chez nos voisins au Royaume-Uni. Les grèves se poursuivent aussi depuis des semaines dans plusieurs secteurs. Le gouvernement veut introduire une loi sur le service minimum, d'ailleurs, Annalisa.
Exactement, c'est le Premier ministre Rishi Sunak qui veut imposer aux grévistes un service minimum dans certains secteurs clés. Des secteurs où les employés seraient tenus de travailler même pendant une grève et même s'ils sont syndiqués. Ils risqueraient même le licenciement en cas de refus. Il s'agit notamment des personnes qui travaillent dans le domaine de la sécurité nucléaire, des transports et de la santé. Vous le voyez, il s'agit surtout du domaine public, hein, où les salaires sont bien inférieurs à ceux du service du privé et où les salaires sont aussi bien inférieurs à l'inflation. Et selon le gouvernement, cette loi est essentielle pour permettre l'organisation de ces secteurs justement clés qui ont été énormément perturbés par les grèves de ces derniers mois.
Alors, quelles ont été les réactions à cette proposition de Rishi Sunak, Annalisa ?
Eh bien, des vives critiques de la part de l'opposition. Selon les travaillistes, cette loi met en danger le droit de grève et la liberté des salariés de manifester. Des accords aussi, plus étonnants, du côté de certains employeurs qui se retrouveraient finalement dans la position très inconfortable de devoir choisir quel salarié réquisitionner. En revanche, cette loi semble convaincre plutôt les Britanniques. 56% d'entre eux disent approuver la législation sur le salaire minimum. Mais selon les Britanniques, il ne faut pas punir directement les salariés, les travailleurs qui ne respecteraient pas la loi. Il faudrait plutôt punir les syndicats.
Voilà. Une réaction, messieurs, sur ce qui se passe au Royaume-Uni. Jean-Claude Ducatte.
Je ne suis pas suffisamment spécialiste.
Pierre.
Non, j'ai envie de dire, les Britanniques, par définition, n'ont pas le même rapport ni au travail, ni au syndicalisme que nous. Il y a eu historiquement des liens très forts, beaucoup plus forts qu'en France, entre le Parti travailliste et les syndicats. On sait que la CFDT a longtemps été proche du Parti socialiste, pas si on peut le dire toujours. Donc voilà, c'est plus compliqué que ça.
Oui, oui, juste pour préciser ce que vient de dire Pierre, structurellement, dans les statuts du Parti travailliste, le Parti travailliste est l'émanation des syndicats, et le numéro 2 du parti est forcément représentant des trade unions. Et donc, que le Parti travailliste soit contre, ça me paraît être le minimum du mandat que l'on peut confier à ce parti.
On va revenir à notre cas précisément. Certains secteurs ont été particulièrement touchés par les derniers mouvements sociaux. Les PME sont vent debout contre ce mouvement. Les patrons s'inquiètent. Est-ce qu'elles ont de quoi s'inquiéter, ces PME?
Écoutez, moi, je suis encore là très, très dubitatif, parce que si vous lisez la prose du MEDEF par rapport à la réforme de la retraite depuis à peu près, je dirais, 2 mois, ils sont quand même très 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 mocho vetsi, très silencieux.
Oui.
Les patrons de moyenne de PME, sur ceux que j'ai pu rencontrer, je trouve à la fois une opposition au mouvement, mais je trouve également de la compréhension. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que ce mouvement est extrêmement difficile, parce que il est en train de se constituer au travers de choses qui sont tout à fait différentes. C'est l'hôpital, c'est les transports, c'est la sécurité. Or, en définitive, le vrai sujet des retraites, c'est ce que vous disiez tout à l'heure fort justement, c'est interrogeons-nous sur comment on travaille. En fonction du choix de travail que l'on aura fait, eh bien, on aura de façon quasiment mécanique, le type de retraite auquel on peut espérer aller.
Oui, c'est ça.
Et en plus, après, il y a aussi une autre donnée, c'est que tous les jours sortent des informations sur pourquoi on fait cette retraite. Ça ne serait pas forcément une retraite voulue par le gouvernement, mais une retraite qui serait un peu imposée par Bruxelles.
Par Bruxelles.
Ça serait une retraite qui serait un peu imposée par les marchés financiers. Donc, si vous voulez, dans une période où c'est pas très gai, les fêtes ont été absolument tristes pour tout le monde, on rigole pas, on peut plus boire, on peut plus rien faire. Eh bien, vous avez tout ça, et en plus, vous avez une espèce, on n'en est pas encore là, mais faire très attention, peut-être à une espèce de main noire que les gens vont peut-être fantasmer. Et là, c'est le début de situations très, très tendues.
On analysera évidemment en fin de journée sur cette chaîne, édition spéciale, l'ampleur de la mobilisation, l'ampleur des blocages et puis la suite du mouvement qui sera décidé ce soir aux alentours de 18h. C'est à suivre sur BFM Business. Merci messieurs, merci Jean-Claude Ducatte d'être venu nous voir. Merci Pierre Kupferman, merci Jean-Marc Daniel avec nous tous les jours. On va continuer la deuxième partie de l'émission 90 minutes business avec vous. On répond à toutes les questions que vous nous avez posées sur avecvous@bfmbusiness.fr. Vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux LinkedIn, Twitter, YouTube et Facebook. C'est dans 2 petites minutes. À tout de suite.
90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.